Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir le débat sur le dialogue national avec différentes réactions dans la classe politique congolaise et dans les ONG. Et notre deuxième thème va porter sur le bilan de l'application de la Constitution, 7 ans après sa promulgation. Participe au débat de ce soir Innocent Kyabukala, coordonnateur de Global Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Innocent, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Albert Omba, journaliste à Tropicana FM, une radio privée qui émet aussi depuis Kinshasa. Bonsoir Albert.
Oui, bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Et Odon Joseph Bongambo, directeur des informations à la radio-télévision Sarah, une chaîne privée qui émet depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Odon Joseph, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. Le dialogue national annoncé par le président Joseph Kabila a retenu l'attention des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Forum des As titre, dialogue national, la recette MSR. Selon ce parti de la majorité présidentielle, cette rencontre ne doit pas être perçue comme une prime à la guerre ni une foire politique. Le piège, c'est d'éviter d'ouvrir la porte très largement au risque de faire entrer dans la case même les animaux les plus nuisibles. Ce parti estime que le dialogue national doit se tenir dans un cadre institutionnel et à Kinshasa. Sur un autre titre, Forum des As mentionne les ONG des droits de l'homme plébiscitent Sassou et Brazzaville. Ce journal rapporte que le dialogue national doit être organisé à Brazzaville, capitale de la République du Congo, selon le RENADOC. Quant à la désignation du facilitateur devant conduire ces concertations, ces ONG congolaises jettent leur dévolu sur le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Pour le potentiel, le MSR opte pour une coordination conjointe président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ce deuxième parti ténor de la majorité présidentielle propose que les concertations sur la cohésion nationale se tiennent à Kinshasa. Abondant dans le même sens, la prospérité souligne co-présidente des concertations politiques à Kinshasa, le MSR propose le duo Minako Kengo pour diriger ou coordonner ses concertations. Sur un autre registre, RadioCapi.net faisant le bilan des 7 ans d'application de la Constitution de la Troisième République en RDC, relaie les propos du professeur en droit constitutionnel Paul Gaspard Ngondankoy, qui a affirmé que plusieurs dispositions de l'actuelle Constitution de la RDC promulguée le 18 février 2006 ne sont pas encore entrées en application. Il a notamment cité les dispositions relatives à la décentralisation, à l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation prévues par cette Constitution, mais qui ne sont pas toujours mises en œuvre. Il faut noter enfin que d'autres sujets ont aussi occupé les colonnes des journaux cette semaine à Kinshasa. Il s'agit du colloque international immortalisant Franco Luambo Makiadi, des affrontements enregistrés le week-end dernier dans plusieurs parties du pays suite à l'activisme des groupes armés ainsi que la signature de l'accord cadre prévu à Addis Abeba le 24 février prochain.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Albert Omba, je rappelle que vous êtes journaliste à Tropicana FM, une radio privée qui émet depuis Kinshasa. Hormis tous les sujets énumérés par Samuel Kachak, il faut dire aussi que la presse congolaise est en deuil. Elle a perdu un de ses grands journalistes au nom de Ogobani Massoudi, qu'on appelait affectueusement Andoche, qui a même travaillé avec vous à Numérica Télévision. Que dire de ce grand de la presse qui vient de nous quitter?
Oui, pour moi, c'est vraiment une perte parce que c'est un ami qui... Pas un ami, mais un grand frère, un père. C'est lui qui m'a initié dans la presse. J'étais au niveau du premier gradué à l'IFASIC quand j'ai commencé à travailler avec lui. C'est lui qui m'a initié à l'écriture journalistique. Et il me traitait toujours comme un ami. Et on a évolué beaucoup d'années avec lui, sans qu'il y ait de couac, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Vraiment, pour moi, c'est une perte énorme.
Voilà, merci Albert Omba. On sent que vous êtes très ému. Innocent Kabukala, coordonnateur de Global Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Un mot sur Andoche Ogobani Massoudi.
Disons que ce confrère, c'est vrai que je n'ai pas côtoyé personnellement, mais beaucoup de témoignages viennent et convergent pour dire que c'est quelqu'un qui avait non seulement une belle plume, mais aussi une bonne presse comme telle. Et dans le cas d'espèce, on parle plutôt de sa disparition. En tant que tel, confrère, je me sens très affecté dans ma chair. Et donc, nous perdons l'un de nous et ça frustre quand même parce que, en fait, on a besoin d'être encore beaucoup plus nombreux pour continuer à faire ce travail que nous avons choisi, qui nous passionne tant.
Alors, on reste toujours dans la presse. Il y a aussi notre confrère Diane qui croupit toujours en prison.
Oui, mais on l'a dit déjà la semaine dernière, c'est dommage. Ici, on parle de la mort, mais là-bas, c'est plutôt quelqu'un qui est à qui on a demandé de ne plus faire son travail pendant un temps. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on puisse quand même revenir sur cet aspect des choses, parce que le confrère n'a rien fait de mal. Je crois qu'il ne fait que les frais de ceux qui estiment être beaucoup plus forts, et peut-être avec notre justice par moment qui s'adonne aux plus offrants, et que ceux qui n'en ont pas assez finissent comme Diana aujourd'hui. Mais là où il est, nous continuons à témoigner notre soutien et qu'il ait plus de courage, parce que nous pensons qu'il sera parmi nous incessamment pour que nous puissions continuer à faire ce travail. Mais sinon, c'est encore une nouvelle qui énerve davantage notre profession.
Odon Joseph Bongambo, vous intervenez depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Vous êtes directeur des informations à la radio-télévision Sahara. C'est une chaîne privée qui émet depuis Mbandaka. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans la province de l'Équateur?
Merci. Bien, je crois que je dois commencer par présenter mes condoléances les plus émues à la famille de la presse de la RDC. Parce que là, nous avons perdu certainement un géant. Mais j'exprime aussi ma solidarité franche vis-à-vis de notre confrère Diane Nguekoupa. Je le côtoie à Kinshasa. On a d'ailleurs eu à participer à un débat avec lui sur Congo Web. Je le connais, un grand journaliste de renom et de talent. Là où il est, je crois qu'il a le soutien de la presse et que dans les jours qui viennent, les choses pourront marcher pour qu'il puisse retrouver sa liberté et reprendre son travail. En ce qui concerne l'actualité dans la province de l'Équateur, je m'intéresse à ce qui se passe au nord, c'est-à-dire avec cette arrivée massive des réfugiés centrafricains qui fuient, qui viennent vers les territoires de Mobimbongo, les territoires de Sidenge, les territoires de Yakoma et aussi la ville des Zongo dans le sud de Bangui. Alors la situation devient vraiment inquiétante parce que déjà on est à plus de 20 000 réfugiés. On parle même de 21 352 réfugiés qui sont déjà dans notre pays, qui sont venus de la République centrafricaine. Le danger dans ça, c'est que parmi ces réfugiés, il y a des militaires. Il y a des militaires qui viennent dans le pays avec des armes. Donc, ils traversent avec leurs armes et la population locale. Hein, a toute sa raison. Et la raison est fondée d'ailleurs de craindre que la malheureuse expérience de l'Est puisse également se produire dans la province de l'Équateur.
Merci Odon Joseph Bongambo. Premier terme de ce soir. Les débats continuent sous le dialogue national avec plusieurs réactions dans la classe politique congolaise et même dans les ONG. C'est le cas du réseau national des ONG de droits de l'homme qui tient à l'organisation d'un dialogue national inclusif, non en RDC, mais plutôt au Congo-Brazzaville. C'est l'essentiel de la déclaration du RENADOC au cours d'un point de presse tenu mardi dernier à Kinshasa. Pour le RENADOC, le pouvoir organisateur de cette rencontre doit être confié au président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Selon son secrétaire exécutif national, le choix de Sassou Nguesso comme facilitateur pourrait crédibiliser les issues de ce dialogue national sans tergiversation des acteurs politiques censés contribuer à la cohésion nationale. On écoute Fernandez Mourola au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Comme Renadoc, nous pensons que le pouvoir organisateur du dialogue intercongolais doit être net pour permettre à toutes les sensibilités politiques de prendre part à ce dialogue. Si nous allons aujourd'hui au dialogue national et que la première force de l'opposition, la deuxième force de l'opposition, la troisième force de l'opposition de notre pays ne participe pas à ce dialogue, ça n'aura pas un impact. Et c'est pourquoi nous avons proposé que le dialogue se tienne à Brazzaville sous la facilitation de Denis Sassou Nguesso. Il a quand même la maîtrise parfaite de tous les acteurs congolais. Ça ne servira à rien de faire un dialogue national où il n'y aura pas Tshisekedi, Kamere, où il n'y aura pas Mosengo et que sais-je encore. Si nous devons faire un bon dialogue, il faut que toutes les filles et tous les fils de notre pays, les plus influents, les plus pertinents, soient là et qu'on échange de vive voix sur l'avenir de notre pays.
Donc vous envisagez un gouvernement d'union nationale avec intégration des opposants?
Il faudrait qu'à l'issue du dialogue intercongolais, il y ait effectivement un nouveau gouvernement. On doit choisir les meilleurs des Congolais pour animer le gouvernement qui suivra.
Pour sa part, le MSR, parti de la majorité présidentielle, propose que ces concertations se tiennent à Kinshasa sous la coordination conjointe des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. On écoute Laurent Simon Ekenge, rapporteur du bureau politique et porte-parole du MSR au micro de Innocent Olinga.
La facilité avec laquelle le Rwanda et d'autres forces obscures recrutent de façon répétée des hommes de main parmi les élites congolaises pour ensanglanter et piller la République démocratique du Congo a quelque chose de déconcertant qui mérite que le chef de l'État en appelle à tous de s'y pencher sérieusement. En ce moment de turbulence dans notre pays, le MSR demande au président de la République et au gouvernement d'user de leurs prérogatives constitutionnelles pour éteindre sans état d'âme des foyers de tension qui sont en train d'être entretenus par certaines autorités politiques, particulièrement dans les provinces du Katanga et de l'Équateur. La République démocratique du Congo ne doit pas faire preuve de complaisance pour qui que ce soit face à tout enjeu maléfique pour la paix, la sécurité et la démocratie tant voulue par le peuple congolais aujourd'hui.
Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de Global Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa le débat ces derniers jours dans les QG des partis politiques tourne autour de ce dialogue national. Certains préfèrent que ce dialogue se passe à Kinshasa, d'autres souhaitent que ça soit à l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas déjà un début de blocage lorsque la classe politique n'est pas d'accord de l'endroit où doit se tenir ce dialogue?
Le vrai problème, c'est déjà les termes qu'il faut utiliser en ce qui concerne ce dialogue-là. Pourquoi doit-on dialoguer? Aujourd'hui, on semble ignorer ce qu'on doit mettre là-dedans dans ce dialogue. C'est comme ça qu'il y a des gens qui donnent des réactions pour dire, bon, voilà, il faut mettre ceci et cela. Le vrai problème, c'est que le décideur, comme a su corriger un de mes invités sur le plateau, je crois la semaine dernière, le décideur s'appelle chef de l'État, Joseph Kabila, qui a eu sur le plan de... c'est lui qui a initié, plutôt qui a convoqué ces concertations, donc ce dialogue-là. Il devra, lui, nous donner le contenu. Quel est l'entendement qu'il a de ce dialogue-là? À partir de cet instant, vous verrez que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pratiquement... Et les gens ne sont pas vraiment dans le droit chemin. Le vrai problème qui se pose en ce qui concerne le dialogue réside au niveau de l'effectivité du pouvoir. D'une part, et d'autre part, la question de la légalité et de la légitimité. C'est ça le vrai problème de ce dialogue-là. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent autour de ce dialogue-là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de gens, ils se contredisent. Il y en a qui pensent que s'il faut le faire à Brazzaville, ça va être une crédibilité. Et d'autres pensent que si on peut le faire ici chez nous, ça sera mieux. Mais non, écoutez, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est la sincérité dans les cœurs que reconnaître le vrai problème. Je l'ai dit tout à l'heure, le vrai problème, c'est la légalité pour quelqu'un et la légitimité pour l'autre. Et s'il devait avoir un vrai dialogue, c'est entre justement ces questions, si pas ces deux acteurs principalement. Et tous les autres ne feront que...
Mais c'est comme l'a dit le Renadoc, on ne peut pas organiser ce dialogue sans Tshisekedi.
Non, je ne suis pas d'accord avec le Renadoc parce qu'il fait un mélange là-dedans. Le Renadoc parle à la fois d'un dialogue qu'il faut tenir à Brazzaville parce qu'on estime que Denis Sassou Nguesso aurait... Je n'ai pas le conditionnel parce que moi, je ne peux pas aller sur cette lancée-là, aurait la maîtrise des acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas ça le problème. Nous avons deux pays différents. Ces deux pays sont distincts. La République populaire du Congo, je ne pense pas qu'il y ait une démocratie là-bas. Alors que les questions qui doivent faire partie de ce dialogue sont évidemment des questions d'ordre démocratique. C'est déjà biaisé.
Et donc vous estimez que tant qu'on n'aura pas de quoi, il faut débattre dans ce dialogue.
Le problème de lieu n'importe pas à ce niveau ici. Parce que je pense que lorsque nous avons eu la conférence nationale souveraine, nous l'avons tenue ici même, dans notre pays. Bien qu'elle a connu quelques petits problèmes, notamment à son issue. Mais donc, il est possible que les Congolais se parlent entre eux réellement. Mais c'est un problème de sincérité. Et la sincérité, c'est quoi le problème? Il y a d'une part une question de légalité et d'autre part la légitimité. Comment concilier les deux vues? À partir de cet instant-là, on saura.
Albert Romba, journaliste à Tropicana FM, une radio privée qui est depuis Kinshasa. Le MLC souhaite aussi que ce dialogue s'efface en dehors du pays, sous une médiation internationale.
Moi, je crois que même la fois passée, quand nous étions dans ce studio, nous avons dit que il fallait à tout prix, nous avons parlé d'abord du contenu, qu'il était encore flou, et nous avons insisté sur le fait qu'il faut sécuriser tout le monde. C'est-à-dire, il y a le problème de confiance qui manque entre les acteurs politiques. Au moment où le président de la République initie ce dialogue, il faut qu'il sécurise tout le monde, il faut que tout le monde ait confiance. Pour que tout le monde ait confiance, il faut qu'il y ait un cadre extérieur à la personne du chef de l'État pour organiser ce dialogue. Et pour sécuriser aussi tout le monde, il faut un cadre qui est à l'extérieur du pays. Dans quel sens?
Parce que vous soutenez le RENADOC?
Je soutiens parce que j'avais cette idée. La fois passée, je parlais. D'ailleurs, j'avais cité nommément le président Sassou Nguesso comme médiateur la fois passée parce que il faut, au moment où Innocent vient de dire qu'il y a le problème de légalité et de légitimité, qui de Tshisekedi ou de Kabila va dire que, ou Kabila va dire non, moi je renonce à mon poste, je n'étais pas élu, ou Tshisekedi va dire non, moi je n'étais pas élu. Non, vous voyez qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui va les départager.
Et vous estimez que c'est le président Sassou
pour le moment,
qui ferait un bon médiateur?
Pour le moment, Sassou Nguesso est des meilleurs médiateurs.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Albert Romba?
Nous avons, il a l'expérience de tout ce qu'il y a comme conflit d'abord. C'est un homme qui est respectueux maintenant et un homme qui a joué un rôle important dans beaucoup de conflits africains. Et nous estimons que la proximité aussi aidant et la confiance que les Congolais portent à lui aussi, parce que chaque fois qu'il y a un problème, nous voyons les Congolais traverser le fleuve pour aller le voir, ça permet aussi de concilier les choses. Et une chose que nous avons oubliée, mais c'est ce qu'il y a à se déplacer pour l'Afrique du Sud. Malheureusement, les journaux n'ont même pas parlé de ça. C'est un événement.
Si, j'ai vu un journal qui a repris ça, je crois que c'est Le Phare.
Voilà. Quand ce qu'il se déplace pour aller en Afrique du Sud, c'est pour faire quoi? Bien, officiellement,
il a été invité
pour une conférence dans une ONG de ceci, tralala. Mais à fond, c'est pour que lui aussi prenne conscience, concerte qui de droit. Et vous verrez qu'après son voyage, il pourra peut-être changer d'avis, parce qu'il y aura beaucoup de contacts qu'il aura en Afrique du Sud. Peut-être on peut le persuader de suivre cette logique, parce que vous verrez qu'à un moment donné, c'est qu'il s'est tu. Pourquoi il s'est tu pendant toute cette période? Parce qu'on lui a dit non, laissez l'autre aller, voyons si on peut aller sur un autre chemin. Et pourquoi Kabila, qui refusait le dialogue, a accepté? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à coulisses, beaucoup d'interventions de la communauté internationale, beaucoup de pression, et sur Kabila, et sur Tshisekedi. Nous espérons que les deux prendront conscience qu'il faut quand même sortir de l'ornière. Une chose qui est importante est que tous, la plupart au moins, des opposants, et la plupart des opposants ont précisé qu'ils ne vont pas à concertation pour se partager le pouvoir. Ce qui garantit un peu le dialogue.
Donc, sont sincères? Est-ce qu'on peut croire?
C'est ce que nous verrons.
Odon Joseph Bongambo, directeur des informations à la radio-télévision SARA, une chaîne privée qui émet depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Quelle est votre analyse à vous par rapport à toutes ces discussions sur ce dialogue national qui doit se tenir?
Je crois qu'il faut tout d'abord comprendre le sens même de ces mots, dialogue national initié par le président de la République. Moi, je pense ici, il ne s'agit pas de recommencer les comptes à rebours. C'est pas le cas. On ne veut pas reprendre, par exemple, le partage du pouvoir, on veut reprendre les élections. On n'est pas sur ce point-là. Mais on dit qu'il s'agit des concertations sur la cohésion nationale. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal et je comprends même pas comment d'autres personnes estiment que le président Kabila aurait subi des pressions extérieures. Non, c'est pas une obligation qu'il subisse des pressions extérieures. S'il estime que à l'issue de ces dialogues, il pourra trouver des solutions durables aux problèmes de son pays, c'est tout à fait normal qu'il prenne la initiative. Parce que là, c'est l'intérêt du Congo qui est dans ce qu'il est en train d'initier là. Et moi, je ne comprends pas que les gens pensent que nous, dans ce cas de figure, on veut sortir de la Constitution pour commencer à faire autre chose, on veut, par exemple, parler de la légalité et de la légitimité. Là, je parle par rapport à ce qu'a dit mon confrère innocent. Je vois les innocents, les débats autour de la légalité ou de la légitimité est déjà clos. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans un schéma républicain. L'on veut que les élections aient lieu chaque 5 ans. Donc, on a élu Kabila. Le 28 novembre 2011, il faudra attendre jusqu'à 2016 pour qu'on puisse avoir de nouvelles élections présidentielles. Donc, pour les cas de figure, en tout cas, on ne peut pas parler de la légalité ou de la légitimité. On n'est pas là pour ça. Nous avons une institution qui est chargée de statuer sur les litiges électoraux. Et cette institution avait fait son travail, je suppose. C'est donc la Cour suprême de justice. On a connu les élections présidentielles à ces pays. Il y a des gens qui ont gagné, il y en a d'autres qui ont perdu. Ceux qui ont perdu ont saisi la Cour et la Cour a fait son travail. Donc, nous devons respecter la Constitution. Moi, je crois que même si le dialogue ou la concertation doit se tenir, elle doit se tenir, cette concertation-là, dans les cadres ou dans les respects stricts de la Constitution. Et je me pose une des questions, je me dis, mais on veut largement ouvrir la case, on dit, écoutez, il faut aller à Brazzaville, il faut pas déférer à certaines à Kinshasa, il faut aller contacter les présidents de l'administration de choses. Mais qui vous dit que les Congolais ne sont pas capables de résoudre leurs propres problèmes? C'est possible. Moi, je crois aussi qu'il y a une précision à porter, parce que les gens veulent connaître le contenu. N'est-ce pas? Ils veulent que le président Kabila puisse donner du contenu à ces dialogues. Quel contenu vous voulez? N'est-ce pas que le pays est menacé? N'est-ce pas que le pays est sérieusement sous la menace de la balkanisation? Est-ce que vous voyez la situation de l'Est de notre pays qui ne fait que perdurer? Vous voyez l'insécurité de la province du Maniema? Vous voyez l'insécurité au Katanga? Et aujourd'hui, avec même ce qui nous arrive au niveau de la province des Frateurs, c'est-à-dire tous ces réfugiés qui viennent, ça, c'est ce que nous voyons. Mais c'est que les Blancs planifient, nous ne connaissons pas. Alors, le président Kabila a pris conscience de cela. C'est comme ça qu'il veut que ses amis, que la classe politique puisse se réunir et étudier les voies de sortie de façon durable de cette crise. Sinon, franchement, on va arriver à la balkanisation de notre pays.
Alors, donc, pour vous, vous estimez, Odon Joseph, que le contenu de ce dialogue doit porter sur la situation dans l'est de la RDC?
Madame, on a organisé les élections. S'il s'agit de partage de pouvoir, on n'est plus dans ce cadre. Ça, c'est révolu. Je crois qu'il faut attendre 5 ans plus tard pour qu'on ait des élections. Mais maintenant, les problèmes qui préoccupent la population, c'est les problèmes liés à la sécurité.
Non, sans comme qu'à la réaction.
Oui, Kelly, je voudrais me rassurer, hein, parce que vous nous avez présenté comme tel. Je pense que Odon Joseph est journaliste et non pas porte-parole du gouvernement. Parce que là, les propos tels que je les entends là, je me fais bien peur. Je reprécise ce que j'ai dit. J'ai fait une analyse en tant que tel journaliste à partir des faits que nous avons collectés dans notre métier, en écoutant les uns et les autres, parce que nous organisons des émissions sur nos chaînes et nous recevons des gens, nous entendons ce qu'ils disent, comment ils réfléchissent par rapport au sujet d'actualité. Vous comprenez? Alors, des uns et des autres, nous avons retenu qu'il y a un problème au pays. Et ce problème part de la fin de l'issue des dernières élections de 2011. Et là, nous avons entendu des termes du genre légalité, des termes du genre légitimité. Et tout cela, ça fait que nous ayons des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'avant cela, il n'y avait pas de M23. L'M23, c'est après ces élections-là. Donc, c'est autant de problèmes comme d'autres problèmes qui existent encore, de problèmes d'ordre social. Il y a beaucoup de Congolais qui posent ces problèmes-là.
Alors, Odon Joseph estime qu'il faudrait partir d'abord, organiser ce dialogue pour trouver des solutions par rapport à la crise qui sévit dans l'est de la RDC, et puis les autres questions suivront après.
Non, ce n'est pas ça. Sinon, si c'était le cas, on se serait contenté de ce qu'on a fait à Kampala. Mais pourquoi on est revenu au niveau du dialogue national? Pourquoi on demande tant? Parce qu'on a senti qu'il y a un besoin de se parler. Parce qu'on sent que le Congo ne marche pas, ne va pas. Il faut pas se voiler la face. Si il est vrai que nous devons continuer dans la logique de Joseph tout à l'heure. Donc, les institutions restent en place. Mais pourquoi les gens qui sont dans les institutions, l'opposition institutionnelle, pourquoi demande-t-elle qu'il y ait un dialogue? Pourquoi? Parce qu'elle est déjà là dans les institutions. C'est qu'il y a un problème. Le problème ne se situe pas à ce niveau-là, au niveau des institutions. Il y a les institutions actuelles qui souffrent de leur légitimité. Et donc, il faut y trouver une solution.
Albert Omba, il y a déjà des divergences de vues par rapport à la tenue de ce dialogue national. Est-ce que vous pensez qu'il aura lieu finalement, ce dialogue?
Oui, le dialogue aura lieu. Les Congolais sont toujours comme ça. Quand il y a une idée qui est lancée, chacun va de son côté. Mais à la fin des comptes, il faut se retrouver. Le malheur en est qu'il faut se retrouver tard, quand les choses seront complètement pourri. Vous vous souviendrez, même avec le truc de Kampala ici, quand le M23 a fait sa mutinerie, nous étions ici dans ce studio, nous avons dit clairement au gouvernement qu'il faut négocier avec ces gens. Ils ont dit non, c'est des mutins, on ne peut pas négocier avec eux. On a dit, si ces gens se sont révoltés, s'ils ont quitté Massis pour aller se mettre à Bunagana, il y a quelque chose qui se trame derrière. Et c'est quelque chose, vous connaissez, de l'autre côté de la frontière, ce qui peut arriver. Les gens n'ont pas voulu, on a fait des déclarations tapageuses, on a fait croire au chef de l'État que sans les négociations, on pouvait maîtriser la situation. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aux négociations. Qui se sont passées où? Les premières négociations du du CNDP, ça s'est passé à RDC. Quand le CNDP a signé les accords du 23 mars 2009, est-ce qu'ils sont allés à Kampala ou ailleurs? Comme les choses étaient bien cadrées, les négociations s'étaient passées à la République démocratique du Congo, c'était à Goma à l'époque. Mais aujourd'hui que les choses sont pourries, ont atteint un niveau de politique que vous ne pouvez pas faire, il faut négocier. C'est pourquoi ils sont allés à Kampala. Revenons au cas de dialogue que le président Kabila a initié. C'est un dialogue franc. Il y a un problème. Vous avez vu qu'après les élections de 2011, beaucoup d'opposants ont réclamé des négociations. Même Tshisekedi parlait qu'il faut aller négocier. C'est-à-dire, il y a un problème de légitimité qui s'est posé. Aujourd'hui, en dehors du problème de légitimité, il y a le problème de sécurité qui s'ajoute, il y a le problème de sociaux qui s'ajoute. Et dans ce cadre, il faut qu'on revoie tous ces problèmes-là. Malheureusement, et heureusement, la plupart des acteurs sont d'accord que ce ne sera pas pour le partage équitable et équilibré du pouvoir. Ce qui nous garantit de ce côté-là. Ce que nous voulons, c'est qu'ils se disent face à face, messieurs, voilà ce que vous faites, ça ne va pas, messieurs, vous ne devrez pas faire ça. Et puis, on trouve intérêt d'attente pour qu'on termine le mandat de façon que il n'y ait pas de problème encore, il n'y a pas d'autres mutineries, qu'il n'y ait pas encore d'autres rébellions, qu'il n'y ait pas encore de coups d'État, qu'il n'y ait pas encore autre chose, qu'on termine carrément le mandat. C'est ça notre souhait.
Odon Joseph Bongambo, vous croyez en la tenue de ce dialogue?
C'est possible, c'est question que les acteurs politiques de notre pays puissent montrer leur maturité, mais j'ai regardé déjà par le fait qu'ils cherchent davantage à compliquer l'équation. Quand on veut que les dialogues éteignent le ciel, non pas chez nous, c'est comme si... dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de locaux qui peuvent contenir les participants à ce dialogue. Je crois qu'on ne peut pas exagérer la considération. Considérons cela comme une concertation pour la cohésion nationale, c'est-à-dire une causerie au sein de la classe politique. Le président Kabila veut que chacun puisse émettre son point de vue pour voir dans quelle mesure trouver des solutions à nos problèmes, aux problèmes de la RDC. Mais pourquoi toujours faire allusion, bon, dire, écoutez, puisqu'on n'avait pas confiance aux Congolais, il faut aller chercher le président Denis Sassou Nguesso pour venir faire la médiation. C'est que tous les problèmes qui vont concerner notre pays, on va aller ailleurs. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, non. Les acteurs politiques doivent montrer leur maturité, croire en leur capacité, et se dire que c'est possible que les Congolais, que nous puissions discuter entre nous, en toute sincérité, vous, opposition, en face du président de la République et du gouvernement, vous vous dites des vérités. Vous vous rappelez des étudiants, vous vous rappelez des promesses faites à la population, et vous vous dites des choses qui peuvent aussi faire en sorte que les pays puissent avancer. Donc moi je crois que à tel niveau déjà, malheureusement, la situation se complique davantage.
Merci.
Avec ce que demande le RENADOC. Le RENADOC estime que le dialogue doit se faire sous la houlette du président Denis Sassou Nguesso. Je pense pas que la majorité présidentielle sera d'accord. Parce qu'on ne doit pas être hypocrite. Là, on doit comprendre que la majorité ne va pas être d'accord.
Merci,
Odon. Étant donné que l'initiative est venue du président de la République.
Merci, Odon Joseph Bongambo. Bilan de l'application de la Constitution, 7 ans après sa promulgation, c'est notre deuxième et dernier thème, 18 février 2006, 18 février 2013. Cela fait 7 ans, jour pour jour, que la RDC dispose de sa Constitution de la Troisième République. Cette loi suprême avait été promulguée après référendum le 18 février 2006. Elle fixe la forme de l'État, le régime politique, les rapports entre les institutions, mais aussi le mode de scrutin. Dressant un bilan technique des 7 ans de son application, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy affirme que certaines dispositions de ce document ont été respectées. Cependant, ajoute ce constitutionnaliste, plusieurs choses restent à réaliser. Il a dit au micro de Mimi Ngumba.
Il y a un certain nombre de réformes qui ont été annoncées par la Constitution qui n'ont pas été opérées. Je pense ici, par exemple, aux réformes dans le domaine de la décentralisation. Vous vous souvenez que la Constitution avait prévu qu'en dehors des 36 mois qui suivaient l'installation des institutions politiques, on devait installer les 26 provinces. On a profité de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 pour repousser l'échéance. Deuxièmement, il y a des institutions dans le monde judiciaire qui auraient pu également être installées, entre autres la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation. Tout cela n'a pas été installé. Il faut se souvenir que la loi sur la Cour constitutionnelle, par exemple, a déjà été adoptée en termes identiques par les deux chambres. Jusqu'à ce jour, on est étonné qu'elle n'ait pas encore été promulguée. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été annoncées, mais qui n'ont pas encore été complètement réalisées. On peut dire que c'est un peu décevant, même si, par ailleurs, il faut reconnaître que d'autres dispositions de la Constitution ont été bel et bien appliquées. Je pense ici, par exemple, aux dispositions qui organisent les sessions parlementaires.
C'était là le professeur Gaspard Ngondankoy, constitutionnaliste, Albert Omba, journaliste à Tropicana FM, une radio privée qui émet depuis Kinshasa. 7 ans après sa promulgation, quel bilan faites-vous de l'application de la Constitution de la Troisième République?
Oui, le bilan, nous sommes à mi-chemin de l'exécution. C'est un bilan mitigé. Et vous verrez que tout ce que le professeur vient de citer, c'est ce qui est qui est aussi à la base de toutes les complications que nous avons. Parce que quand on installe pas le système judiciaire tel que prévu par la Constitution, le même magistrat qui est de la Cour suprême, c'est le même qui fait d'office magistrat de la Cour de cassation. Et il faut qu'il siège à chambre de cassation, s'il faut le conseil d'État, c'est le même magistrat, s'il faut la matière constitutionnelle, c'est ça le même magistrat. Vous voyez que ça porte une confusion totale. Donc, il y a eu c'est la non-installation de ce système judiciaire avec les trois cours a causé d'énormes problèmes à la République. On revient aussi, comme le professeur l'a dit, au niveau de la décentralisation. Hormis les provinces qui n'ont pas été mis effectivement, les 26 provinces, on a vu que la base n'a pas été instaurée, les autorités de base. On n'a pas organisé les élections pour mettre toutes les autorités urbaines, c'est-à-dire les bourgmestres, les chefs de collectivité, les administrateurs des territoires. Et comment on peut gérer un pays avec les sommets? Donc on a un député, on a un gouverneur, mais un gouverneur qui n'a pas un administrateur des territoires, un gouverneur qui n'a pas un chef de collectivité ou de secteur, non. Vous voyez là où le problème réside. On a vu aussi qu'au niveau de la diplomatie, il devait avoir une réforme. Au niveau de la diplomatie, on devait réduire le nombre des représentations diplomatiques et puis désigner d'autres diplomates et rapatrier les autres diplomates qui traînent en Europe depuis des vingtaines d'années. Tout ça, ce sont des réformes qu'il fallait faire et qui étaient prévues par la Constitution. Vous verrez encore que au niveau de la réforme de la sécurité, de l'armée, on devait réformer l'armée. On ne l'a pas fait. On devait réformer la police, on ne l'a pas fait, et tous les services de sécurité. Ce qui crée qu'au niveau de l'armée, on a un méli-mélo de tous les congrès-mélas, de ceux qui sont venus des rébellions, et à la fin des comptes, l'armée nationale n'existe pas.
Alors, vous avez parlé des bilans mitigés, là vous avez évoqué les points négatifs, et les points positifs qu'on peut retenir de l'application de cette Constitution.
Bon, les points positifs, nous avons des institutions comme le président de la République, qui existe. Nous avons l'institution comme l'Assemblée nationale, l'institution comme le Sénat qui existe, qui le gère normalement. C'est déjà un acquis. Et nous avons au niveau des provinces, on a des gouverneurs qui sont élus, on a des assemblées provinciales qui font quand même leur travail. Quand il y a un problème, ils légifèrent au niveau de la province. C'est déjà un acquis.
Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de Global Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bilan mitigé pour vous aussi?
Bon, mitigé, bon, on peut dire ça comme ça. Hein. Le temps pour en pointer est temps Malbert. Mais moi, j'ai plutôt un sentiment d'amertume parce qu'en fait, c'est une constitution. J'ai eu la chance de voir d'abord le projet, l'avant-projet, et puis le projet alors que j'étais là pour le compte de ma chaîne au Sénat lorsque le travail avait commencé à ces niveaux-là, et c'était pratiquement pendant la période de transition. Mais lorsque l'on regarde vraiment, c'est quand même assez curieux parce que après un mandat, on n'a toujours pas réussi à mettre en place bien de choses qui auraient pu d'autres institutions. Albert vient de citer par exemple l'éclatement de la Cour suprême aujourd'hui en deux autres cours. Mais Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, lorsqu'on pose des questions d'ordre constitutionnel, j'ai envie de parler de la science, en fait. Parce que pour parler de ces choses, on consulte les gens qui sont des scientifiques. Des juristes, ils viennent, ils travaillent et tout ça. Et vous voyez que c'est impersonnel. Mais pourquoi on n'arrive pas à concrétiser ce qu'on dit, toutes ces décisions? Vous verrez que la science, dans notre pays, la plupart des cas, se heurte aux problèmes politiques. Alors, les difficultés politiques font qu'on n'arrive toujours pas à appliquer cette constitution. C'est comme si on n'en avait même pas. Je ne vois pas des éléments réels, concrets, hein, qui sont des avantages que nous avons par rapport à cette constitution. Albert vous parle des institutions qui sont mises sur pied. Mais elles ne sont qu'intentionnelles. Pour la plupart des cas, cette absence de volonté politique dirige en fait l'application de la Constitution. Pour la plupart des cas, on le fait intentionnellement. On ne veut pas arriver à toutes ces institutions parce qu'on a des calculs, on a des visées. Selon qu'on estime qu'on connaît qu'il y aura tel problème qui pourrait arriver, on sait justifier par la non-tenue ou l'inexistence d'une institution X, ce qui peut expliquer et on a tels avantages. Vous voyez, ce sont des calculs. Et en définitive, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'absence de la volonté politique dans notre pays ne nous permet pas vraiment de réaliser de bons résultats dans tout ce que nous entreprenons comme démarche, comme réforme, qui procède pour la plupart des cas d'ailleurs de scientifiques. Parce que vous savez, dans les autres pays hein, au monde, lorsque le politique se trouve tout droit devant un mur, on recourt à des institutions comme les universités pour pouvoir être débloqué. Mais ici, on fait travailler. Et d'ailleurs, pour la plupart des cas, on débauche même des scientifiques au profit de la politique, et ils se noient là, ils se perdent, et puis finalement, au nom de la mangeoire, tout est perdu.
Odon Joseph Bongambo, vous intervenez depuis Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Vous êtes directeur des informations à la radio-télévision Sahara. Quel est le bilan que vous vous dressez de l'application de la Constitution 7 ans après sa promulgation?
Je crois que l'application présente un bilan mitigé, c'est qu'il y a certaines dispositions qui ont respecté, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été respectées. Mais je retiens le point qui vient d'être évoqué par Albert, je crois que finalement, c'est comme si Albert est en train de centraliser la responsabilité de l'application de la Constitution sur la tête des politiciens ou des hommes politiques qui parlent de la volonté politique, machin. Mais il faut aussi savoir que l'alinéa 2 de l'article 52 de la Constitution dit que toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Donc, le respect de la Constitution, c'est une responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous. D'ailleurs, la loi, la Constitution dit expressement que nul n'est censé ignorer la loi. Donc la population, c'est tout le monde partout où il se trouve, est donc appelé à respecter cette Constitution-là. Il est vrai, il y a des points qui ont quand même connu des réalisations, il y a des progrès qu'on a connus, par exemple la liberté d'expression. Aujourd'hui, chez nous, dans la province de l'Équateur, franchement, on peut passer aux médias, on dit ce qu'on pense sur la vie publique. On peut en tout cas le dire sans être inquiété. On rentre les soirs, on dort chez soi et les matins, c'est l'éveil. Mais il y a aussi des points qui n'ont pas connu des réalisations. Par exemple, l'enseignement primaire, secondaire professionnel, je crois que ça devait déjà rentrer dans les attributions exclusives des provinces. Mais dans la pratique, c'est pas le cas. Je constate malheureusement que c'est le ministre de la Nation des EPST qui continue à dicter la politique générale de l'éducation dans notre pays, alors que la Constitution avait prévu que ça fait partie des attributions qui reviennent aux provinces.
Merci Odon Joseph. Nous tournons vers la fin de l'émission. Je vais vous demander vraiment d'être bref dans vos réponses. Albert Omba, il y a certains politiciens ou certains observateurs qui estiment que le bilan de l'application de la Constitution est négatif parce que certaines dispositions de cette Constitution ont été révisées, notamment la disposition sur l'élection du président de la République. On est passé de 2 tours à 1 tour.
Oui, c'est un aspect, mais cela ne veut pas dire que dans l'ensemble, l'application de la Constitution est négative. Ce sont des points que nous avons énumérés, ce qui constitue que nous disons que l'application, c'est vraiment humilié, c'est mitigé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ignorées jusque-là, dont le confrère vient de parler tout à l'heure de l'enseignement primaire et secondaire. Si on parle de l'enseignement primaire et secondaire, il faut parler de tout, de 40% qu'on devait rétrocéder. Mais si les provinces devaient récupérer les 40%, ils doivent payer les enseignants. Est-ce qu'il y a une province qui peut payer les enseignants aujourd'hui? aujourd'hui.
Merci Albert Aromba, Innocent Kiabukala. Un mot par rapport à ceux qui pensent que le bilan est négatif.
Oui, le bilan est négatif. C'est-à-dire le problème, c'est vous avez évoqué le fait que cette constitution a subi des modifications. C'est ça le problème. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le problème réside au niveau de la bonne foi politique, la volonté politique pour appliquer. Pourquoi a-t-on révisé? Est-ce qu'il y avait une nécessité de réviser? Vous verrez que si on a fait ce travail-là, c'est parce qu'on avait besoin de résoudre une question bien déterminée dans le calcul de l'homme politique. C'est ce qui explique effectivement cet aspect des choses. C'est voilà pourquoi on parle du bilan mitigé ou que les autres interprètent de négatif, parce qu'en fait, il y a cet aspect des choses. Mais très rapidement, Kelly, lorsque mon frère parle des hommes politiques, Joseph Odon, oui, les hommes politiques, nous ne disons pas que le bon citoyen, c'est à la fois nous, en tant que telle population, mais aussi les acteurs politiques. Mais nous les responsabilisons, pourquoi? Parce qu'ils ont la conduite, parce qu'en tant que tels, ils animent les institutions qui doivent faire en sorte que le bon citoyen suive justement l'application de cette constitution. C'est tout simplement cela.
Merci Innocent. Odon Joseph, en un mot, il reste encore beaucoup de choses à faire.
Alors, certainement, il reste beaucoup de choses à faire, mais je crois que la révision de la Constitution ne doit pas être un motif pour dire que la Constitution n'a pas été bien appliquée, étant donné que l'article 218 de la Constitution énumère même les conditions pour arriver à la réviser. Donc, ça, c'est pas un problème. La Constitution n'a jamais été verrouillée. La Constitution elle-même revoit des mécanismes pour la revoir ou pour la réviser. Je crois que là, ça pose pas trop de problèmes. Des choses ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à être appliqué.
Merci Odon Joseph Bongambo, merci chers confrères d'avoir accepté notre invitation. Merci à Samuel Katchek sous la supervision de Péléki Pélamondo qui nous ont aidé à préparer et réaliser cette émission. La technique était assurée par Dieudonné Nyangasa, au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiotokapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.